Première course, l'Arche de Noé. La plaine s'étendait à perte de vue, 3000 mètres plus bas. Esther parvenait pourtant à distinguer, avec une précision stupéfiante, les immeubles de la banlieue d'Erevan, les camions qui filaient de la frontière iranienne vers Dobéhézit, les tanks turcs parqués aux entrées de chaque village. Les pentes de l'Ararat constituaient un belvédère prodigieux. « Approche, Aman. » La fillette s'avança. Un peu timide, un peu gauche, comme si elle ne savait pas quoi faire de sa carcasse trop grande pour son âge. La main tremblante d'Aman caressait l'éca, se perdait dans sa fourrure. Pas une fois ces deux-là ne s'étaient quittées depuis qu'elles étaient nées, il y a 10 ans, à quelques jours d'intervalle. « Bon anniversaire, Aman. » Aman ne savait pas quoi répondre. Dans leur tribu kurde, les anniversaires se limitaient à quelques chants, une histoire racontée par l'un des vieux, parfois un objet rapporté en secret du marché d'Igdir. Une poupée, un animal sculpté, un bijou. Esther posa une main sur l'épaule de sa fille, la forçant à s'asseoir. « C'est pour toi. » Elle ouvrit sa main, dévoilant son cadeau. Un collier. Un disque de cuivre retenu par un lacet de cuir. Sur le cuivre étaient gravés 2 traits formant une croix, inclinée vers la droite. Un trait long et un trait court. D'un geste doux, Esther accrocha le collier au cou d'Aman. « Garde-le toujours, » murmura sa maman. « Toi seul dois en connaître la signification. » Les yeux gris d'Aman se troublèrent. Elle ne comprenait pas. Elle se rapprocha encore de l'éca, se réchauffa à sa toison, la laissa lécher son bras nu. Esther était silencieuse à présent. Elle fixa longtemps la plaine en contrebas, puis, lentement, se tourna vers le sommet enneigé du mont Ararat. Enfin, elle prit la main de sa fille et s'expliqua. « Écoute bien tous les mots que je vais prononcer, Aman. Retiens-les, pour toujours. Le jour est venu. Tu es grande désormais. Tu vas devenir à ton tour une gardienne de notre secret millénaire, celui de notre famille, de notre tribu. Et c'est sans doute ce qui t'importera le plus aujourd'hui, celui de l'Éka et de son troupeau. Mais écoute bien, Aman, même si tu auras du mal à me croire. De ce secret dépendent des milliards de vies sur cette terre. En dépend tout ce en quoi ils croient, tout ce pourquoi ils vivent, tuent, pillent ou aiment. Aman ne comprenait toujours pas. Elle se réfugia dans les yeux de l'Éka qui pétillait d'intelligence. Esther serra plus fort encore la main de sa fille. C'est le secret transmis par notre plus vieille aïeule, Aman. La fillette, à son tour, observa la montagne autour d'eux, ce refuge inviolable qui les protégeait du monde.
Il fut le premier à monter jusqu'ici?
Non, Aman. Non, il ne monta pas sur l'Ararat. Il en descendit. Chapitre 1. Chapelle Sixtine, Vatican. L'enfant roux, terrifié, s'accrochait à la cuisse nue de sa mère. Elle ne lui jetait pas un regard, indifférente, trop occupée à serrer dans ses bras son autre fils, un gosse d'à peine 2 ans, ridé de peur. Le sol craquelé se dérobait sous leurs pieds. Un arbre sans feuilles, tordu par la tempête, se dressaient sur la colline comme leur seul espoir. Une autre femme s'enroulait déjà autour du tronc, telle une liane de chair. Le vent soulevait sa tunique jusqu'aux épaules, impudique, s'en moquant. Tous les autres regards étaient tournés vers le maigre arbuste. 12 ou 13 personnes, il était difficile de les compter avec précision. Toutes tentaient de fuir l'eau qui dévorait les berges. Un homme portait sa femme sur ses épaules, un autre un précieux sac de toile, d'autres une table retournée, un coffre, une outre, des fruits. Quelques mètres plus loin, 20 rescapés tentaient de survivre sous une tente de fortune que la tornade menaçait d'arracher à chaque instant. Des mains se tendaient vers quelques condamnés émergeant encore de l'eau, celle d'un vieillard chauve à barbe blanche, d'une femme, nue elle aussi. Peine perdue, trop de courant, de distance, de vent. L'eau triomphait. Plus loin encore, sur la mer, la barque chavirait. Dans leur lutte désespérée, les hommes tombés à la mer entraînaient les autres dans leur chute. Leurs gestes de panique accéléraient leur inéluctable noyade. le cataclysme ne semblait que commencer. Les nuages noirs s'accumulaient au fond de la Seine. Indifférente, l'arche cubique s'éloignait. Quelques ultimes survivants étaient parvenus à se hisser sur la plateforme du vaisseau et tentaient de pénétrer à l'abri des murs de bois bitumés. Un refuge clos, privé, hermétique. La dérisoire échelle qu'ils maniaient n'y changeait rien. Eux aussi allaient périr. Zack se massa la nuque et se tordit à nouveau le cou vers le plafond de la Sixtine. Avec une infinie minutie, il détailla les quatre groupes d'hommes. La colline au premier plan, l'îlot rocheux à droite, la barque chavirée au centre, l'arche au loin. Il avait compté 62 êtres humains peints sur la fresque de la chapelle. Enfants, vieillards, hommes, femmes. Presque tous nus. Zack se fit la réflexion qu'il représentait autant de comportements humains. Les résignés, priant sous la tente. Les fous, incapables de se séparer de leurs richesses terrestres. Les salauds, qui cherchaient leur salut au mépris des autres. Les justes, qui jusqu'au bout tendaient la main. Zack ferma un instant les paupières. Pourtant, tous, bons et méchants, égoïstes et solidaires, allaient périr de la même calamité. Sans pitié ni discernement. Sans que quiconque fasse le tri.
Mesdames et messieurs, je vous prie de passer dans la salle suivante.
La consigne du guide tira Zack de sa torpeur. La centaine de touristes qui se tassaient dans la chapelle Sixtine se dirigea vers la sortie. Un groupe chassait l'autre selon un ballet organisé avec méthode. Zack seul demeura immobile quelques instants supplémentaires, les yeux dans les nuages. Tous allaient mourir. Bien entendu, pensa Zack, le message que Michel-Ange délivrait dans sa fresque était limpide. Limpide et diaboliquement subversif si l'on y songeait. Contrairement aux autres représentations classiques du déluge, Michel-Ange n'avait pas peint l'espoir, la descente des eaux, la colombe, l'arc-en-ciel, Noé et ses enfants. Il n'avait pas non plus mis en scène la nature déchaînée, les vagues furieuses, la pluie emportant tout. Non, tout son art s'était concentré sur les êtres humains, étudiant leurs réactions si diverses face au cataclysme. Poignante. La fresque ne montrait pas un troupeau conduit à l'abattoir, mais une foule d'individus, un à un différents jusqu'au dernier instant. Pourtant, tous devaient mourir. Tous, sauf une poignée d'élus, cloîtrés derrière les portes de l'arche. Pourquoi ? Pourquoi un tel massacre ? Semblait hurler le chef-d'œuvre de Michel-Ange. Quelle raison, quel crime, quelle haine pouvait justifier un tel sacrifice universel ? Monsieur, il faut sortir, répéta doucement le guide. Il faut laisser entrer l'autre groupe. Zack baissa la tête. Il se détendit le cou. Endolori depuis bientôt 15 minutes qu'il scrutait au plafond de la chapelle les 9 fresques racontant la Genèse. Habituellement, la majorité des regards des visiteurs se concentrait sur le 4e tableau, le plus célèbre, celui de la création d'Adam. Zack, lui, n'avait pu détacher le sien des 3 derniers, le sacrifice de Noé, le déluge, l'ivresse de Noé. Zack s'avança vers la sortie en consultant sa montre. 12h13. Il devait presser le pas. Il ne disposait plus que d'une demi-heure. Le plus difficile était devant lui. Tout en marchant, il tâta le sac qu'il portait en bandoulière, vérifiant que rien ne manquait. Les 2 choses bicolores, la ventouse, le briquet et surtout, le paquet de cigarettes. Aucun objet qui soit suspect, qui puisse attirer l'attention d'un garde suisse. Poursuivi par l'œil courroucé du guide, Zack se hâta de quitter la chapelle. Il n'était pourtant pas pressé de retrouver le lieu dans lequel il allait passer les 12 prochaines heures. Un placard d'1 mètre sur 50 centimètres, de la même taille que celui dans lequel il dormait depuis un mois.